Le 11 et 12 juin 2024, à l'occasion du colloque inter-ENS intitulé « L'égalité des chances, la diversité, l'ouverture », Cadécole est allé tendre son micro aux différents intervenantes et intervenants de ses deux premières journées à l'ENS de Lyon. Aujourd'hui, nous accueillons Agathe, une étudiante de l'ENS de la rue d'Ulm, en troisième année dans le département de biologie. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours personnel d'entrée notamment à l'ENS? Comment est-ce que vous avez connu l'école? Comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce type de parcours? Et quel est votre chemin personnel pour y entrer?
Eh bien, moi, j'ai commencé juste après le bac. Je suis partie en BTS d'abord, en BTS agricole, pendant une année pour étudier un petit peu l'élevage. Et finalement, ça ne m'a pas trop convenu. Donc, je suis partie en licence à l'Université du Havre Normandie d'abord, donc en L1, à cause de difficultés de Parcoursup. Et par la suite, du coup, j'ai changé. Je suis partie à l'Université Paris Diderot en L2 sciences de la vie. Puis, du coup, je me suis réorientée vers l'ENS Ulm, puisqu'on avait une plateforme, enfin une transition possible entre Paris Diderot et l'accès à l'ENS qui proposait des places. Donc j'ai candidaté à ce moment-là et puis je suis arrivée là-bas.
Donc c'est par l'intermédiaire de l'université qui proposait des passerelles entre l'université et l'ENS, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait, c'est ça. C'est parce qu'en L2, on avait en fait, il fallait qu'on recandidate pour passer de L2 en L3.
Ouais.
Et donc on avait le choix entre des L3, bon, toutes les L3 qu'on voulait, dont Paris Diderot et l'ENS, puisque le département de biologie, nous, avait un partenariat. Le diplôme de licence de l'ENS en biologie était dispensé par l'Université de Paris.
D'accord. Est-ce que vous avez identifié des difficultés d'entrée dans l'école? Enfin, si je vous écoute, en fait, vous êtes entrée par l'université, donc vous n'avez pas eu à passer le concours, à déposer dossier de candidature. C'était vraiment une passerelle par l'université. Donc, est-ce que vous avez connu des difficultés à l'entrée, une sélection?
Alors oui, en fait, c'est pas le même concours, effectivement, c'est le concours normalien étudiant. Donc on n'a pas du tout d'écrit, c'est vraiment 2 oraux. D'abord, donc sur dossier, si le dossier passe, on a un premier oral pour un petit peu discuter de notre projet, pourquoi on est là, etc. Pourquoi on veut intégrer l'ENS aussi, puisqu'ils cherchent des personnes qui veulent partir en recherche après. Et ensuite, il y a un deuxième entretien, plutôt de test compétences, on va dire, où ils nous donnent un exercice à résoudre plus ou moins en 20 minutes. Et voilà, et une fois que ces 3 étapes-là sont passées, on est intégré. Mais effectivement, ce n'est pas du tout les mêmes concours que les concours prépa classiques.
D'accord, mais comme le thème du colloque, c'est l'ouverture sociale, du coup, effectivement, vous êtes une des représentantes de l'ouverture sociale de l'école, au sens social, je ne sais pas, mais en tout cas de l'ouverture vers d'autres types de recrutement. Vous avez un engagement, vous, personnel par rapport à ce type de recrutement? Est-ce que vous avez... ensuite reconnu la chance que vous avez eue, ou est-ce que vous avez...
En fait, je suis allée en L3 à l'ENS parce que c'était un parcours encore très interdisciplinaire et je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc ça m'a donné la possibilité de prendre une année en plus pour continuer à faire pas mal de choses, continuer à prendre des modules dans d'autres disciplines aussi, quelque chose que je n'aurais pas pu faire à la fac. Donc ça me convenait bien. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte assez tardivement, je pense surtout en M2, où du coup j'ai pu un peu intégrer l'association MNCIP qui était portée par Elliot. Et c'était une cause qui me tenait assez à cœur, parce qu'effectivement quand j'étais avant en BTS, j'avais pas forcément, on n'avait pas du tout accès à des cours particuliers ou ce genre de choses. Et donc l'accès était un peu différent, même quand j'étais au Havre d'ailleurs en licence. Donc effectivement j'ai trouvé ça intéressant d'avoir la possibilité de donner des cours, d'avoir cet engagement-là à part. Mais effectivement c'est un peu mon seul engagement que j'ai eu au sein de l'école.
Donc si vous pourriez nous préciser, peut-être justement vous dites que c'est votre seul engagement, mais quel est cet engagement? Est-ce que vous donnez des cours, vous tutorez du coup des élèves qui entrent dans l'école?
Oui, non, je tutorais des lycéens qui étaient en zone plutôt rurale, ou du moins qui avaient moins accès à des cours particuliers, donc en distanciel. Et l'idée, c'était effectivement de les suivre soit sur des sujets où ils n'étaient pas encore à l'aise, pas en préparation du bac, soit pour faire de l'orientation, soit pour discuter effectivement quels sont les ENS s'ils étaient intéressés, etc. Donc oui, c'était du tutorat, du coup.
Est-ce que vous auriez des pistes pour assurer davantage de diversité, de recrutement dans l'école? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé avec vos camarades de votre association?
Plus au niveau de la promotion, je pense qu'il y a... Nous, on a un département qui est assez ouvert sur le fait d'avoir des personnes qui viennent de fac, ce qui est loin d'être le cas dans d'autres départements, qui prennent majoritairement des personnes venant de prépa. Et ce qui est un peu dommage, je trouve, parce qu'on a autant de choses à apporter que, que des personnes qui ont fait prépa, ou alors du moins d'autres choses. Et ce qui était un petit peu effectivement dommage, c'est qu'on n'est pas plus cette ouverture à des gens qui viennent de fac, et surtout, on a des personnes qui viennent de prépa et qui ont la possibilité d'être payées par l'ENS, ce qui n'est pas du tout le cas des personnes qui viennent de fac, on n'a pas la possibilité d'accéder à ça. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir être encore avec mes parents, donc qui ont pu me payer le logement, etc. Mais si je n'avais pas eu mes parents en région parisienne, je n'aurais sûrement pas pu accéder à l'école, étant donné que je n'aurais pas pu être payée. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faudrait travailler, parce qu'on est pas mal à trouver ça un petit peu aberrant.
J'ai une dernière question. Est-ce que le fait de venir d'un BTS, puis de l'université, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières en termes de travail, de niveau scolaire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti?
C'est pas vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Je pense qu'en première année de L3, en 1A, je l'ai un petit peu ressenti, dans le sens où c'était pas du tout le même format qu'à la fac. C'était pas du tout des cours avec un seul professeur, c'était vraiment beaucoup de conférences. Donc ça, je l'ai un petit peu senti sur ça. Mais c'était plus en termes de charge de travail que de difficultés en tant que telle. La seule différence majeure qu'on a eue avec les prépas, c'est qu'ils avaient un bagage mathématique beaucoup plus important, en informatique aussi. Et donc ça, effectivement, nous, on n'avait pas eu du tout eu le même bagage, donc ça rendait la chose un peu compliquée. Mais en termes de charge de travail, non, c'était loin d'être infaisable, quoi.
Merci beaucoup, Agathe, pour votre témoignage.
Merci à vous.
Aujourd'hui, nous accueillons Elliot Moine, élève de l'ENS de Lyon, en quatrième année au département de sciences humaines et sociales. Elliot, bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours personnel d'entrée à l'école normale supérieure? Quel était votre cheminement? Comment est-ce que vous avez connu l'ENS?
Donc, je suis entré à l'ENS en 2019, à l'ENS de Lyon, par le concours Voie BL. Et donc, pour remonter un petit peu avant cette entrée-là, puisque c'est la question, donc moi, je suis originaire du Jura, à Arbois, donc une petite ville de 3000 habitants qui est connue pour le vin, première AOC en 1936, et pour Louis Pasteur, parce que c'est la maison natale de Louis Pasteur, mais pas pour ses études supérieures. Donc, il n'y a pas d'études supérieures dans le Jura en tant que tel. Et c'est ce que montrent d'ailleurs des rapports récents de l'Institut Terram. En fait, évidemment, les formations sont concentrées dans les grandes métropoles majoritairement. Et donc, pour mes études, j'ai dû bouger. Parce que qui dit habiter dans le Jura en zone rurale dit éloignement aux études supérieures et donc nécessité de changer d'endroit. Ça, c'est la première chose qui est importante dans mon parcours. Et la deuxième, c'est que aussi, j'ai pris conscience, a posteriori, qu'étudier dans le Jura, dans un lycée dans le Jura, ce n'était pas étudier dans un lycée parisien. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de l'éloignement, des conditions matérielles que ça exige, il y a aussi des inégalités scolaires, déjà au niveau du lycée, sauf qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Donc moi, à l'issue de mon lycée, je suis entré en classe préparatoire BL, sciences, lettres et sciences sociales et mathématiques, et je suis entré à Melun, donc une petite prépa au lycée Jacques Amyot. Pourquoi est-ce que je me suis retrouvé là? C'est en fait assez par hasard, parce qu'en fait, un de mes professeurs m'a parlé de la classe préparatoire et m'a dit que ça pourrait être bien vu mon profil, comme je ne savais pas ce que je voulais faire par la suite. Sauf que, évidemment, même si j'étais un bon élève dans mon lycée, je n'étais pas un bon élève au niveau national. Et donc, je n'ai pas pu être pris dans de meilleures prépas en fait, que celle de Melun. Et là, ici, je tiens aussi à saluer le rôle des classes préparatoires de proximité, parce que même si elles n'envoient pas de gens aux ENS, donc en fait qu'elles sont invisibles dans les classements. En revanche, elles ont un rôle social et territorial qui est beaucoup plus marqué que les autres prépas, par exemple les prépas parisiennes, parce qu'elles recrutent des gens qui n'auraient pas pu passer par la prépa et qui, du coup, bénéficient quand même de cet environnement qui est favorable et qui peuvent rattraper, en fait, un certain écart qui existait par rapport à leur lycée d'origine. Donc quand je dis que c'est une petite prépa et que j'y suis entré sans le vouloir au départ, forcément, ou en tout cas sans penser que j'irais dans celle-là, c'est pas du tout une critique, parce que je suis plutôt reconnaissant de cette prépa-là. Ensuite, j'ai cubé à Nantes, dans une prépa un peu meilleure à Guisto. Et ensuite encore, je suis entré en double licence philo-socio à la Sorbonne, à Paris 4, avant de repasser le concours BL pour entrer donc à l'ENS en 2019. Passer donc trois fois le concours, ce qui est assez rare, mais en fait, c'est le temps que ça prend aussi pour casser le plafond de verre du concours.
Donc, ce qui m'amène de manière assez fluide à ma deuxième question, qui était, est-ce que vous aviez identifié, vous, des difficultés quant à l'entrée dans l'école, quant à l'ouverture peut-être sociale et géographique? Donc, vous avez en partie répondu, mais est-ce que vous pourrez peut-être développer davantage?
Tout à fait. Alors, la première difficulté, celle de la connaissance, sur laquelle je ne suis pas trop revenu au départ, c'est que dans les prépas d'où je viens et dans mon milieu aussi, l'ENS, on ne sait pas ce que c'est. Autant les marques comme Sciences Po peuvent parler, autant la marque ENS est inconnue. Et même, c'est un véritable contraste entre les grandes prépas et les petites prépas, les élèves qui rentrent dans les petites prépas ne rentrent pas pour passer un concours. Ils rentrent parce qu'ils rentrent dans cette prépa-là, mais ce n'est pas l'objectif du concours qui est derrière. Donc moi, j'ai pris connaissance en fait, de l'ENS après mon entrée en prépa, où on m'a dit « ça prépare à l'ENS ». Donc déjà, c'est un premier obstacle, c'est-à-dire que si on n'a pas connaissance de l'école, on ne peut de toute façon pas y entrer. C'est un peu basique dit comme ça, mais c'est le cas. Le deuxième obstacle, c'est qu'il y a plusieurs voies d'entrée dans les ENS, le concours, la voie classique, la voie étudiante sur dossier, si on simplifie un petit peu. Dans les grandes prépas, je l'ai découvert a posteriori aussi, tous les élèves sont incités par leurs professeurs à déposer des dossiers dans l'ensemble des ENS où ils peuvent entrer. Ce n'est pas le cas non plus des petites prépas, parce que en fait, les professeurs ne sont pas forcément déjà au courant de ces voies d'entrée ou n'incitent pas les élèves à y le faire, puisque de toute façon, la façon dont les étudiants et étudiantes sont recrutés quand ils viennent de prépa, c'est en fonction de leurs résultats au concours, même sur dossier. C'est-à-dire qu'on va recruter des admissibles ou des sous-admissibles, et on ne va pas regarder le détail du parcours. Et donc en fait, il y a aussi là un autre obstacle à l'entrée quand on vient de ces petites prépas-là, c'est un défaut d'information d'un côté et un défaut dans le recrutement de l'autre.
Une forme d'autocensure de la part des professeurs déjà ?
D'autocensure, ou pour reprendre le terme que Leïla Frouillou a utilisé tout à l'heure pendant le colloque, plutôt d'auto-élimination, parce que l'autocensure fait porter évidemment
la responsabilité
sur celui qui se censure, alors qu'en fait c'est le système, ou en partie au moins, qui joue un rôle d'élimination.
Et du coup, on vous interroge particulièrement, vous, aujourd'hui, puisque vous avez un engagement personnel quant à ces questions-là au sein des ENS. Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler plus particulièrement ?
Quand je suis entré à l'ENS, la question des inégalités, de l'égalité des chances, des difficultés d'accès de certains publics, en particulier en fonction de facteurs socio-économiques, était prise en compte, au moins au niveau associatif et aussi un peu dans l'imaginaire des décideurs. Mais en revanche, le champ territorial était assez absent. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, ce qui existait en termes d'associations à l'ENS de Lyon sont des associations qui proposaient de l'aide à l'enseignement, mais forcément en présentiel, et donc dans une zone géographique très limitée, particulièrement donc pour des publics défavorisés de Lyon et de la proche banlieue de Lyon. Ce qui est très bien, évidemment, parce qu'on en a besoin, mais c'est aussi le cas en fait, dans la plupart des grandes villes, et pas que à l'ENS de Lyon, parce que les associations étudiantes qui font ce travail-là, elles travaillent de proche en proche. Et donc il y a tout un scope de la population, donc les territoires ruraux en l'occurrence, qui étaient oubliés. Et donc l'idée, c'était de créer une association qui s'inscrive en complémentarité de tout ça et qui remette aussi la question des territoires dans le débat public et dans le débat au sein des ENS où elle était assez absente. Donc un peu après mon entrée, j'ai co-créé avec Guylaine Divet, qui est une élève de Ulm, l'association Émancipe, donc une association inter-ENS, puisqu'on est présent maintenant dans les 4 ENS, qui propose du tutorat à destination des lycéens et lycéennes de zones rurales. Donc avec du tutorat en distanciel, forcément, puisqu'on ne peut pas envoyer un normalien chaque semaine dans le Jura. Mais en revanche, on peut les mettre en contact. Et le format est simple, c'est un format de cours particulier. C'est-à-dire que c'est un tutorat qui est individuel et qui est sur la durée. Le tutorat doit durer au moins 10 séances. Et l'idée, c'était vraiment de permettre un suivi pédagogique de long terme pour avoir une vraie lutte contre les inégalités et pas seulement de mettre en relation un normalien et un jurassien pendant un coup de fil, comme des fois ça se fait dans les programmes de mentorat. L'idée, c'était plutôt d'avoir un travail de fond qui est en lien avec l'ADN des ENS aussi, puisque l'ADN des ENS, c'est bien l'enseignement.
Et bien justement, en parlant d'Émancipe, l'association que vous avez créée, est-ce que vous auriez aujourd'hui des pistes possibles pour assurer davantage de diversité dans le recrutement dans les écoles ENS ?
Alors oui, on peut y réfléchir. Alors en parlant d'Émancipe, en fait, il faut se rendre compte que déjà, je pense qu'une des premières pistes, ce serait vraiment que l'école et les associations arrivent davantage à travailler ensemble, ou que l'école se repose plus sur ses associations. Dans le sens où Émancipe, pour donner les chiffres de cette année, juste alors que ça fait 4 ans qu'on l'a créé, c'est 80 tutorats et donc 1000 heures de cours particuliers bénévoles donnés par des normaliens à des lycéens et lycéennes de zones rurales. Donc c'est beaucoup. Et sauf que Émancipe, c'est financé jusque-là uniquement par l'ENS de Lyon, depuis cette année par l'ENS Ulm, donc c'est aussi la politique d'égalité des chances des ENS en fait. Et donc de ce point de vue-là, même si les personnes qu'on suit ne vont pas forcément terminer à l'ENS après, parce que c'est pas forcément l'objectif, c'est aussi d'apporter du soutien scolaire, on fait partie de la politique d'égalité des chances des ENS, et je pense qu'il y aurait beaucoup on pourrait créer davantage de synergie dans la communication, dans l'interaction en fait entre les associations et l'école. Par exemple, en créant un module obligatoire dans le diplôme, pour que les normaliens et normaliennes aient une expérience de tutorat obligatoire, alors, au sein des cordées, au sein des mensibles, peu importe, mais qu'ils soient obligés un petit peu de faire un engagement citoyen d'enseignement. Également aussi valoriser davantage peut-être celles et ceux qui sont dans les bureaux de ces associations, parce que ça prend énormément de temps, et typiquement, si on parle de choses très concrètes comme le diplôme de l'ENS, on n'a pas forcément le temps de valider tous les modules si à côté on a un engagement associatif qui prend du temps. Et donc il faudrait aussi plus d'adaptation à ce niveau-là. Ensuite, pour répondre plus précisément sur la question de ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'ouverture, et cette fois au niveau des ENS en tant que tel, on pourrait imaginer aussi des réflexions sur une meilleure connaissance des ENS que ce soit dans les universités ou dans les classes préparatoires de proximité, comme on avait parlé. Et donc, on pourrait avoir des sortes de référents territoriaux des ENS qui iraient, donc des élèves, des étudiants, des étudiantes, qui iraient dans ces classes préparatoires dans le cadre du diplôme financé par l'ENS pour présenter leur parcours et les voies d'entrée. Évidemment, il n'y a peut-être pas besoin d'aller le faire dans les classes préparatoires parisiennes, mais par contre, dans les petites classes préparatoires ou dans les universités, on l'a vu notamment au cours du colloque, ça pourrait être une bonne chose.
Merci pour cette réponse. Et je vais vous poser une dernière question qui est plus en lien avec des interventions du colloque et des questionnements qui sont nés de ce colloque. Une fois entré à l'ENS, vous avez donc eu un parcours, vous avez passé des concours, des fois plusieurs fois, qui demandent des compétences scolaires précises. Et une fois dans l'école, on attend de vous que vous deveniez des chercheurs, puisque vous venez de le dire, l'ADN des ENS, c'est l'enseignement, mais c'est aussi maintenant beaucoup la recherche. Comment vous avez vécu ces nouvelles attentes et est-ce que vous l'avez compris assez rapidement ?
Alors oui, on les comprend assez rapidement, ne serait-ce que parce que le discours de l'école, le narratif, en fait, c'est bien la formation à la recherche par la recherche. Il y a des masters de recherche, donc au bout d'un moment, le terme de recherche est quand même répété à de nombreuses reprises. Et en plus, nos professeurs, contrairement, donc dans mon cas, à la classe préparatoire, sont des chercheurs et des chercheuses. Alors qu'en classe préparatoire, c'est avant tout des professeurs, ce qui fait une différence aussi.
Et ce qui fait la différence avec les universités, en fait.
Ce qui fait la différence aussi avec l'université, où dès la L1, souvent, si on oublie, alors, si on omet les questions de divers statuts au sein de l'université aujourd'hui, mais en théorie, on est en effet confronté directement à des chercheurs et chercheuses, ce qui n'est pas le cas dans les classes préparatoires. Donc ça fait une grosse différence. Et là, en effet, quand on entre depuis la classe préparatoire, que ce soit sur dossier ou sur concours, il y a une différence, puisque souvent, en classe préparatoire, on va nous inciter à passer le concours de l'ENS en nous disant, un discours assez classique, c'est le mieux que vous puissiez faire, donc passer l'ENS, et après l'ENS, ça ouvre à tout, toutes les portes, donc vous réfléchirez ensuite à votre devenir. Et quand on arrive à l'ENS, on nous dit à l'inverse, eh ben non, vous ne devez pas réfléchir ensuite à votre devenir, vous êtes venu ici pour une école de recherche, pour faire de la recherche. Donc là, c'est vrai qu'il y a un hiatus, dont la faute ne repose sur personne, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute des classes préparatoires ou des professeurs, parce qu'ils ont intérêt à nous inciter à avoir l'ENS. Et en même temps, l'ENS a bien besoin de ce narratif de recherche pour aussi justifier son existence. Mais derrière, il y a un problème de prise en compte de certains parcours différents d'élèves qui chercheraient à s'exprimer autrement, à travailler dans l'administration, par exemple, si on reste dans le niveau de la fonction publique. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être pas assez pris en compte au sein des ENS, aussi parce que l'ensemble des équipes qui dirigent les ENS sont des chercheurs et chercheuses aussi, et donc ne connaissent pas forcément le reste de possibilités, je dirais, de la fonction publique.
Merci Elliot d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une bonne continuation. À la production, Adeline Unscheringer, et à la réalisation, Sébastien Boudin. À bientôt sur Cadécole.